laisser passer.
Ah oui, vous pouvez passer.
Bienvenue à tous et à toutes dans cette émission consacrée aux violences carcérales, dont des surveillants se rendent parfois coupables sur des détenus. Des sévices, des coups dont ils ne rendent compte qu'exceptionnellement devant la justice. Pourtant, en février, la cour d'appel de Rouen a jugé 5 surveillants du centre de détention de Rueil-Malmaison pour violence sur un détenu et pour le fait d'avoir maquillé cette agression en accident. Florence Deleur, journaliste, a suivi ce procès rare qui a abouti à des condamnations lourdes. Florence Deleur avait aussi réalisé en 2016 le documentaire « Maton violent, la loi du silence ». Eh bien, ce film sera projeté cet après-midi à 16h à la Halle de Diolfi dans le cadre de Concertina. Et Florence Deleur sera en direct avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Alors, pour lancer la réflexion sur les violences carcérales, je vous propose qu'on écoute ensemble un petit dialogue téléphonique entre Bernard Bolz, le fondateur de l'Observatoire international des prisons, du site Prison Insider et l'initiateur de Concertina, Bernard Bolz donc, et son ami Larbi Belaïd, qui a passé 35 années en prison. Début 2020, Larbi et Bernard convenaient d'échanger téléphoniquement entre Lyon et Strasbourg régulièrement, avec le projet de publier un abécédaire sur la prison. Bernard proposait une lettre et posait quelques questions à Larbi, qui répondait, fort de son immense expérience de la détention et de son intelligence de la vie. Mais leur projet a été stoppé net par la mort subite de Larbi cet automne. On les écoute tous les deux autour du mot « brutalité ».
Brutalité.
Donc la brutalité, bien sûr, elle est dans l'univers carcéral. Elle est dans aussi bien d'un côté que de l'autre, on peut dire du côté des surveillants comme du côté des détenus. Parce que c'est un univers qui est de toute façon brutal, sans que ça soit physique spécialement, simplement parce qu'il y en a qui vont, comment dire, vivre mal avec les autres. Parce qu'en prison, en général, les gens ont que ça à faire, s'observer, se regarder, s'affronter du regard, essayer de se voir. Donc la brutalité, elle y est permanente. Ça veut dire qu'on peut être même brutaux à la façon de parler, dans ses réactions. Même quand on est avec les nôtres au parloir, on peut avoir l'air brutal. Parce qu'il peut nous arriver de parler avec nervosité. Oui, la brutalité dans l'univers carcéral, elle y est même en temps de paix. Elle est toujours là, ça flotte. Il y a dans tout, il y a la brutalité. Dans les bruits, dans la façon de se comporter. Et puis, de toute façon, c'est pas un univers qui mène par sa tendresse. Donc moi, je dirais que la brutalité, c'est peut-être un des trucs qui est peut-être le plus dur à gérer pour ceux qui ne sont pas habitués à la prison. Parce que des fois, les gens sont brutaux de prime abord. Parce qu'il faut toujours impressionner l'autre ou se placer. Et souvent, les gens qui ne vont pas bien sont souvent les gens les plus bruts. Sinon, celui qui est bien dans sa peau, en général, il a pas plein de brutalité. Mais la brutalité... C'est le seul mot qu'on ne peut pas retirer.
La brutalité des personnels?
Oui, quand même. Parce que elle y est surtout dans l'esquive. Par exemple, le détenu va demander une douche et le surveillant, s'il est un peu faible ou s'il est fatigué, le surveillant va dire bah, « Écoute, tu vas te faire voir, et puis, mais moi j'ai le droit de douche, et ben, c'est comme ça. » Donc, au lieu d'expliquer les choses, il est plus facile de la part d'un surveillant de répondre par sa brutalité. C'est évident. L'ordre a toujours été violent en prison. Les baluchonnages se passent toujours de la même façon. Moi, jamais on m'a transféré en pleine nuit avec gentillesse. Hein. La porte, elle s'ouvre d'un seul coup. Tu te retrouves ceinturé quand tu t'es pas réveillé. Mais en général, tu te réveilles. Mais la porte, elle s'ouvre. Il y a deux surveillants. Un qui tire à l'autre, l'autre qui tire à l'autre local. L'autre couvre la porte. Et puis, ils surgissent dans ta cellule. Et puis, c'est un plaisir pour eux. Il semblerait que ça soit un entraînement, pratiquement. Et puis tu arrives toujours avec des bleus, le bras complètement tordu. Et si tu ne couvres pas la tête, tu ramasses plein la gueule, sans raison. C'est comme ça. Et les surveillants, bien sûr, quand on touche un, il est évident. ont leur solidarité très, très réelle. Ça fait que si tu as le malheur de te prendre avec un surveillant, tu auras tous les autres contre toi. Alors ceux qui ont eu affaire à des surveillants dans d'autres prisons, quand ils arrivent dans une autre prison, tu te doutes bien qu'il y a un comité d'accueil, le plus souvent. Puis on lui rendra la vie difficile, de toute façon. Ça, c'est toujours vu, ça.
Voilà, en écoutant Larbi Belaïd, on comprend que la prison génère des violences entre détenus, des agressions de détenus, parfois envers des gardiens, et des passages à tabac de détenus par des surveillants. Et oui, ça existe. Si nombre de surveillants accomplissent leur mission au nom de la loi, d'autres le font au nom de la force. Et leurs actions violentes sont le plus souvent couvertes par une omerta qui renforce encore l'idée que les prisons françaises sont des zones de non-droit. C'est ce que dénoncent les membres du comité Vérité pour Idir, qui s'est constitué dans la région lyonnaise suite à la mort d'Idir Médérès le 9 septembre 2020, alors qu'il était détenu au mitard de la prison de Corba, près de Lyon. Selon la direction de la prison et le parquet de Lyon, le jeune homme se serait pendu dans sa cellule. La famille et les proches réfutent l'hypothèse du suicide. Ils vont maintenant nous dire pourquoi, dans ce reportage réalisé à Lyon, pour Ici l'Ombre. Camille, on est le dimanche 30 mai à 14h30 sur la place Bellecour, au pied de Louis XIV. Vous avez dressé une palissade d'affiches qui égrènent les noms de jeunes ou moins jeunes morts en prison.
Exactement, aujourd'hui l'objectif de cet événement c'est un peu de mettre en lumière toutes ces personnes qui meurent en prison. Et c'est des morts dont les causes sont parfois floues, parfois des victimes de violences pénitentiaires. Et donc aujourd'hui plus particulièrement on appelle à l'abolition des mitards. Les mitards c'est les quartiers d'isolement, c'est la prison dans la prison. C'est ces endroits qui ressemblent véritablement à des geôles de torture dans lesquels les détenus ont juste un lit, des toilettes et parfois passent jusqu'à 15 jours. Et n'ont plus le droit au parloir, plus de contact avec leur famille, ils sont dans un isolement total, ils passent 23 heures sur 24 en cellule, ils ont le droit juste de sortir dans une cour de promenade où ils sont tout seuls, qui est en fait l'équivalent d'une cellule juste avec un grillage vers le toit. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'informer les gens sur ces situations, sur ce qui se passe dans les prisons, de demander justice pour les familles, pour toutes les victimes, qui ont beaucoup de mal à obtenir justice, qui ont beaucoup de mal à simplement parfois obtenir des réponses sur ce qui s'est passé, à connaître les circonstances.
Arrêtons-nous juste une seconde sur votre revendication de suppression des mitards.
Tout à fait.
Si j'interrogeais là un gardien de prison, il vous dirait probablement, Camille, voilà mon képi, mes clés, débrouillez-vous. Faire respecter les règles qui sont contraignantes en détention, il faut aussi des sanctions. Et la sanction aujourd'hui, c'est le mitard, la principale.
Mais si vous voulez...
Vous remplacez par quoi ?
Déjà, il faut savoir qu'en prison... L'administration pénitentiaire, elle dispose de toute une panelle de sanctions. Enfin, je veux dire, à part l'enfermement dans un quartier d'isolement, elle peut priver un détenu de parloir, de cantine, c'est-à-dire des moyens d'acheter des produits de l'extérieur, souvent à des prix exorbitants. Elle peut supprimer ses contacts avec la famille, supprimer ses activités, supprimer... Elle a toute une panelle de sanctions déjà disponibles. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui justifie cette surenchère de la punition à chaque fois, et surtout, cette situation qui est véritablement de la torture. C'est-à-dire, si ce n'était pas l'État, qu'est-ce qu'on dirait d'une personne qui en enferme une autre 23 heures sur 24 pendant 14 jours d'affilée en leur privant de tout contact physique, psychologique avec quelqu'un d'autre, de se dire mais qu'est-ce qui justifie ça? Donc aujourd'hui c'est bien là-dessus qu'il faut insister et sur le fait que bien souvent on envoie les détenus au mitard pour des histoires pour la possession d'un téléphone par exemple.
Etc. Suppression des mitards, c'est votre revendication essentielle.
Oui, exactement.
Le rassemblement qui regroupe pour l'instant une bonne centaine de personnes, il y a une sono, on entend surtout le prénom d'Idir. Qui est Idir? En quelques mots, sa maman est là, j'irai la voir, mais pourquoi ce rassemblement surtout autour de lui?
Idir est décédé au mitard de la prison de Lyon-Corba en septembre 2020, donc l'année dernière. Et son cas est assez emblématique de justement sa question des violences pénitentiaires parce qu'il est décédé dans des circonstances extrêmement floues. À 2 semaines de sa sortie, on dit qu'il se serait suicidé.
Au mitard.
Au mitard, exactement. Sachant qu'il y a un autre détenu qui a témoigné du fait qu'en réalité, ils auraient été passés à tabac par les surveillants. Et son cas est aussi emblématique du fait que donc, Najet, sa maman, a toutes les difficultés à obtenir justice, à faire en sorte qu'il y ait une enquête.
Pour l'administration et pour la justice, le dossier est clos?
Alors pour l'instant, il y a eu un classement sans suite. Donc il y a eu saisie d'un juge d'instruction avec constitution de partie civile. Et l'objectif, quand, bien souvent, comme dans ce cas de violence, c'est simplement d'obtenir qu'il y ait une enquête, tout simplement. Une enquête qui se contente pas simplement d'obtenir 2-3 déclarations des surveillants présents à ce moment-là qui disent que bah non, il n'y a pas eu de problème, il s'est suicidé, et puis voilà. Et donc le cas d'Idir, de tous ces aspects-là, est emblématique de la situation qu'on dénonce aujourd'hui.
Merci Camille. On va s'approcher de la voiture sono. Les interventions vont commencer. Juste un petit détail, il y a eu une discussion assez animée avec la police. Rassemblement autorisé ou pas?
Oui. Alors, on a fait les déclarations. La préfecture, apparemment, n'a pas reçu la demande de déclaration de l'événement. Donc, elle le tolère néanmoins. Donc, voilà.
Ça va pouvoir se tenir.
Ça va pouvoir se tenir.
On s'approche. Merci.
Najat, elle va faire son discours là.
C'est qui Najat?
Najat, c'est la maman Didier là, qui a perdu son fils du coup au quartier disciplinaire.
D'accord.
En septembre. Et voilà, elle va tenir un discours où elle va expliquer un peu sa situation.
Yes.
Je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre présence parmi nous. Nous sommes réunis ce jour par cette marche nationale à l'initiative de l'association Itir Espoir et Solidarité, dont je fais partie, qui est soutenue par le réseau Entraide, Vérité et Justice et par plusieurs collectifs, afin que les sans-voix se fassent entendre et que la pénitentiaire, tout comme le ministère de la Justice, sache que désormais, nous ne laisserons plus de morts tomber dans le silence. La prison est déjà une grande souffrance. Les prisonniers ne doivent pas, en plus, y perdre la vie. Nous n'acceptons pas la violence d'une partie du personnel qui utilise avant tout l'humiliation, la haine, le mépris, parfois aussi le racisme. Et ils se sentent intouchables grâce à leur uniforme. C'est justement parce qu'ils portent un uniforme qu'il engage la responsabilité du ministère de la Justice, mais aussi et surtout celle de l'État. Pourquoi n'y a-t-il aucun organe de contrôle externe? Aucun suivi des dossiers suspects, lorsqu'on, dans le cas de Jimoni, Idir, Sofiane, Zamani, Benoît, Bilal, Mehdi, les avocats des familles ont mis en avant des dysfonctionnements, des incohérences, voire même des mensonges, mais rien n'est fait. Le parquet persiste à classer sans suite. Par cette marche, nous voulons les mettre en pleine lumière pour que la vérité soit faite. Votre souvenir nous éclaire sur le chemin sombre et difficile pour faire éclater la vérité sur ces assassinats couverts par l'administration. Nous ne voulons plus aucun mort en prison. La prison, c'est pour punir et pas pour mourir. Laissez-les sortir vivants. La justice pour toutes et tous. Sans justice, il n'y aura pas de paix. Pas de justice ?
Pas de paix !
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 La place Bellecour, on est où là en fait?
Alors ici on a l'illégalité, c'est un squat qui a ouvert en novembre. Et
dans la commune de Villeurbanne donc.
Hein, ah tu sais,
quartier
ouais.
Quartier un peu excentré.
Ouais, on est pas loin du périph. Et c'est une sorte de centre social autogéré avec une partie d'activité sociale quoi, avec un lavomatique gratuit, des distributions alimentaires, des cours de français. Et une autre partie de mobilisation politique où on accueille et, bah, différentes causes. Alors parfois c'est des syndicats qui sont en grève, parfois c'était les livreurs. Et là aujourd'hui c'est Idir Espoir et Solidarité.
Comment ça va se passer, juste en deux mots?
Donc là on installe la cantine.
C'est une grande salle hein, qui est un ancien atelier là, attenant à votre villa qui donne sur la rue.
C'est un hangar, ouais, c'est un grand hangar qui doit faire, je sais pas moi, 200 mètres carrés, un truc comme ça.
Vous avez dressé des tables, on va manger donc. Hein.
Et donc là, on dresse effectivement une trentaine de tables et on va manger du couscous.
Et discuter.
Il va y avoir deux moments, ouais, un moment de présentation, au rappel de la journée de mobilisation, parce que du coup on revient de Bellecour là. Et un moment aussi, il y a un journal qui s'appelle L'Envolée, qui est un journal anticarcéral, qui va présenter son dernier numéro, puisqu'ils ont eu des galères il y a 2 mois pour le numéro précédent. Ils se sont fait censurer dans les tôles. C'est un journal qui est distribué depuis des années dans les tôles. Et là, il a été censuré. Et
à donc cause
là,
de quoi ?
À cause du contenu qui dénonçait justement les morts dans les prisons et dans les mitards.
Tu veux que je t'affiche une banderole dans le hangar ?
Oui, s'il te plaît. Au moins, association et irresponsable.
Najat, vous êtes partout. Vous êtes au micro sur la place Bellecourt. Et puis là, vous êtes
à la
semoule du couscous.
Comme on a des invités un peu de partout, de Reims, il y en a qui se sont déplacés de Toulouse, de Paris. Il faut qu'on prend soin, quoi. C'est nos invités.
Alors, elle en est où, la semoule ?
Ben, presque. Dans un quart d'heure, elle sera prête.
Est-ce qu'elle est encore sur le feu ? Elle cuit à la vapeur, là ?
Oui, c'est ça.
Et après ?
Et après, on va la travailler et on va chauffer de la sauce. Et après, on sert. Après, il y aura le café, le thé, le gâteau oriental, tout.
Comment vous avez trouvé cette manifestation Place Bellecourt, pour y dire ?
Franchement, j'étais contente. Là, j'ai senti que je ne suis pas toute seule. C'est ça qui est magnifique.
Parce que mener la lutte comme vous le faites depuis 8 mois, c'est...
Oui, j'arrête pas. Il faut que la vérité s'éclate.
Alors justement, sur la vérité, le parquet, l'administration pénitentiaire a conclu au suicide de votre fils, oui, au mitard. Et vous, vous contestez cette thèse. Sur quelle base ?
Je connais très très bien mon fils. C'est pas un suicidaire, c'est pas un déprimé. C'est pas quelqu'un qui... Au contraire, il est plein de vie, plein de joie. Il aimait vivre. Et en plus de ça, il a préparé sa sortie. Il a pris rendez-vous à l'auto-école pour qu'il refasse le permis. Il avait un travail assuré. Il avait une copine. Il n'y a pas quelque chose qui le pousse à... Non, c'est pas normal.
Vous l'aviez eu ou vu peu de temps avant...
Ben, je l'ai eu 3 jours avant. Il m'a dit, maman, ne t'inquiète pas, je vais rentrer au mitard, mais quand je sors, je te rappelle. Mais t'inquiète pas. Et après, voilà.
Alors ça, c'est votre sentiment de maman. Vous vous dites, c'est pas possible, je connais mon fils. Et en même temps, la justice, elle vient et elle amène des éléments concrets. On a retrouvé, avec un drap autour du cou, le corps d'Idir. Et le médecin légiste dit, ça colle avec mon examen clinique et l'autopsie.
Après nos recherches, après nos témoins, on a accumulé pas mal de témoignages et tout, ça colle pas. Le parquet, il a bâclé l'enquête. C'était vite fait, bien fait.
Vous avez eu accès, par exemple, au rapport d'autopsie ?
Oui. Et tout ce qui est là-dedans, ça colle pas, c'est pas normal.
Il y a un élément qui doit être important pour votre avocat, pour vous, c'est les bandes vidéo.
Oui.
Donc, la justice dit, Idir est mort le 9 septembre.
Le 9 septembre.
Vous avez eu accès aux bandes vidéo de ce jour-là ?
Ben, j'ai vu, oui.
Et la veille ?
La veille, non, malheureusement.
Elles sont où, les bandes vidéo du 8 ?
Ils l'ont détruit.
Il était déjà au mitard, le 8 ?
Oui, oui, il était au mitard. Il est rentré le 7. Il est rentré le 7.
Ça, c'est troublant.
Ouais.
Le fait qu'on ne vous donne pas accès ou qu'on vous dise qu'il n'y a plus de bande vidéo de la veille.
Et... C'est pas normal. Et en plus de ça, ils nous ont montré qu'un côté. Parce qu'en fait, dans le couloir des mitards, il y a des caméras dans les deux côtés, normalement. Après des témoignages. Et pourquoi ils ne nous ont pas donné l'autre ?
Tous ces éléments... L'enquête,
elle est en cours.
Alors justement, j'allais vous poser la question. Tous ces éléments troublants, ça vous a conforté pour déposer une plainte ?
C'est clair. Ça m'a motivée déjà et je vais faire les mains et les pieds. S'il le faut, je laisserai ma vie pour savoir la vérité, la vraie. Je veux que la justice, elle nous donne la vraie version, la vraie enquête, quoi. De toutes les façons, depuis la mort de mon fils, j'ai eu pas mal de contacts avec des familles qui ont les mêmes histoires similaires. Et ce qu'ils m'ont raconté, on dirait qu'ils sont en train de raconter l'histoire de mon fils. C'est le même scénario, mort comme ça, il était comme ça. Et mon fils, il avait du caractère, c'est ça. Il avait du caractère, il ne se laissait pas faire, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a perdu la vie comme ça.
Maître Olivier Forêt, vous êtes l'avocat de la famille Didier Médérès, hein, qui est mort au quartier disciplinaire de la prison de Corbat le 9 septembre 2020. Selon le parquet de Lyon et d'après le rapport d'autopsie, il s'agirait d'une mort par suicide. Vous, vous contestez cette thèse et vous avez déposé une plainte pour homicide et non-assistance à personne en danger avec constitution de partie civile. Sur quoi vous vous fondez pour remettre en cause la version du suicide ?
La famille ne croit pas du tout à l'hypothèse d'un suicide. On va le dire simplement, clairement, Idir n'avait pas un profil de garçon fragile et à ce point d'aboutir à ce geste désespéré. Cela implique soit que les conditions de détention étaient difficiles, avilissantes, étaient négation même de l'humanité, parce qu'on parle de ça quand même. La détention, ce n'est pas que l'enfermement, c'est tous les sévices qui vont avec, que l'on vous impose, parce que c'est de l'enfermement déjà 23 heures sur 24 dans une cellule, ce qui est déjà en soi un sévice corporel, mais c'est même parfois au-delà. Et dans ce dossier, on voit notamment une question qui, moi, m'a stupéfait. C'est-à-dire que vous avez manifestement, et c'est indiqué par un des surveillants qui a été entendu, vous avez manifestement des coupures d'eau qui sont prévues, enfin qui sont effectuées par les surveillants lorsqu'ils estiment qu'il est nécessaire de couper l'eau d'une cellule. Alors,
justifie comment ?
Alors ça, on n'a pas bien compris encore.
Certains détenus boucheraient volontairement leur tinette.
Ça, c'est ce qui a été indiqué comme prétexte en disant, écoutez, lorsqu'un détenu inonde sa cellule, on n'a pas d'autre choix que de lui couper l'eau quelques instants, mais on lui laisse 3 litres d'eau en bouteille, etc. etc. Bon. Ce que nous indiquent, nous, les détenus, c'est déjà que les coupures d'eau ne sont pas sur une petite poignée d'heures, mais peuvent durer un jour, deux jours, trois jours, que les détenus ne disposent d'aucune bouteille d'eau, et qu'ils se retrouvent dans la situation où ils sont contraints, s'ils veulent boire un peu, de boire l'eau des toilettes. Et puis, de toute façon, s'il y a une privation d'eau de ce type-là, il peut y avoir aussi des privations d'électricité, semble-t-il. Mais s'il y a une privation d'eau, il faut qu'on arrive à connaître le cadre légal qui permet d'autoriser cette privation d'eau. Et puis, une privation d'eau, est-ce que c'est contrôlé ? Est-ce que c'est consigné ? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent de retracer cela ? Est-ce que lorsqu'un détenu dit ben « moi, pendant 3 jours, 4 jours, on m'a coupé l'eau », est-ce que nous avons trace, quelque part, d'un registre qui consigne un événement, une décision de ce type-là, qui va entraîner des conséquences désastreuses pour ces garçons ? Vous imaginez, vous êtes enfermé dans cette cellule, vous n'avez pas une goutte d'eau pour boire, vous êtes contraint de boire l'eau des toilettes. Symboliquement, vous avez une négation d'humanité. Voilà, c'est tout simplement ça.
Vous éclairez là l'hypothèse d'un suicide d'Idir qui aurait été poussé par des conditions de détention inhumaines à accomplir ce geste. Et puis, vous travaillez aussi l'hypothèse d'un homicide.
On part de l'homicide parce que, pour la famille, Idir ne s'est pas suicidé. Idir n'était pas capable d'avoir un geste de ce type-là. C'est un garçon qui avait de l'avenir, c'est un garçon qui avait des projets, c'est un garçon qui avait des perspectives. Tout ce qui vous interdit de vous suicider. Voilà. Quand vous n'avez plus d'envie, quand vous n'avez plus d'idées, quand vous n'avez plus d'avenir, quand vous êtes désespéré, vous pouvez arriver à ces gestes fous. Mais ce n'était pas le cas d'Idir, vraiment pas. Alors, on part de cet homicide, on veut une enquête qui est une enquête sérieuse et étayée. Et si cette enquête doit aboutir à d'autres perspectives, eh bien, nous compléterons à ce moment-là la plainte et nous envisagerons d'autres pistes de travail.
Donc, 9 mois après le décès d'Idir, le juge d'instruction a été nommé.
Alors aujourd'hui, on a le juge d'instruction qui a enfin été désigné. Nous avons a priori un magistrat d'expérience, ce qui est aussi une garantie sur la continuité de cette enquête. Ce juge d'instruction, on va le rencontrer très rapidement pour discuter avec lui, pour échanger avec lui sur ce que nous souhaitons comme vérification. Dans les vérifications qui nous semblent essentielles, il y a une vérification technique sur l'intégrité de la vidéo.
L'intégrité de la vidéo, alors elle inclut le moment de la mort d'Idir au niveau temporel, mais elle ne porte que sur la seule journée du 9 septembre. Vous avez demandé, ou le parquet, je crois, a ensuite demandé des vidéos des jours précédents, pendant lesquels Idir était déjà au mitard.
Il est ressorti des investigations et des auditions que des violences auraient été commises par les surveillants dans les cellules. Ça concerne Idir, mais ça concerne également d'autres détenus. Les enquêteurs ont voulu vérifier cette hypothèse-là. Pour ce faire, ils ont questionné la maison d'arrêt. Alors, je vous rappelle, le 12 octobre, ils saisissent la vidéosurveillance du 9 septembre. Le 14 octobre, ils vont interroger la maison d'arrêt en demandant la communication des vidéosurveillances des 7, 8 et 9 septembre dans leur intégralité. La réponse de la maison d'arrêt était simple, c'est nous conservons les vidéos 8 jours. Au-delà, les vidéos sont écrasées systématiquement, sauf en ce qui concerne la journée du 9 septembre, qui est celle de la découverte du corps d'Ilir.
On les a devant les yeux, là, sur votre écran.
Cette vidéosurveillance présente une journée au quartier disciplinaire à compter de 6h30. Donc nous avons toutes les visites des surveillants dans les gestes quotidiens, c'est-à-dire la vérification, éventuellement une extraction de la cellule pour accompagner en promenade, pour accompagner un parloir. Nous avons aussi la visite du médecin ou de l'infirmier de service. Nous avons une série d'événements de ce type-là. Et puis, il y a des événements qui vont nous poser question, parce que l'implantation de la caméra, qui a été choisie par la maison d'arrêt, et nous imaginons et nous savons qu'il y a d'autres caméras, bien entendu, au quartier disciplinaire. Il n'y a pas qu'une seule caméra, puisque cette caméra souffre de lacunes dans l'image qui est celle du quartier disciplinaire. Il nous manque le couloir d'accès, il nous manque l'arrière de la caméra. Donc, il y a des éléments qui nous font défaut. Et cette caméra souffre d'une lacune très particulière, c'est que lorsqu'il y a une porte de cellule qui est ouverte, la porte occulte la caméra. Ce qui permet de tout envisager derrière.
Vous montrez ?
Il faut que je le retrouve. Voilà, vous avez l'exemple typique sur cette image. Vous avez le surveillant qui vient, dans le cas de sa ronde, il est 7h12 du matin. Il vient, dans le cas de sa ronde, rendre visite à un détenu dans sa cellule. Et lorsqu'il ouvre la porte de cette cellule-là, il occulte complètement.
Ah ouais, on voit effectivement la porte et puis un bout du mur d'en face. Et
la particularité aussi du mur que vous voyez en face, c'est le bureau des surveillants ici, qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont choisi d'accrocher sur la fenêtre qui donne dans le bureau.
On voit la fenêtre, ouais.
D'accrocher un certain nombre de papiers qui doivent porter, j'imagine, des messages importants pour le fonctionnement du service. En tout cas, j'imagine que c'est comme ça qu'ils doivent justifier cet affichage-là. Sauf que cet affichage interdit de regarder ce qui se passe.
Donc, on a une image qui nous informe en rien de rien.
De rien. Effectivement, les cellules sont donc sur la gauche de la vidéo. Et vous avez la cellule d'Idir qui est plutôt sur le haut. Ça, c'est une des premières cellules du quartier disciplinaire.
Comment passer derrière cette porte ? C'est pas possible.
Non. Mais il y aura des questions qui vont se poser sur l'exploitation d'autres moments de la vidéo. Là, il est 7h11, 7h12, 7h13. On n'a pas grand-chose. On a un surveillant qui maintient la porte ouverte. On le voit toujours à peu près. En tout cas, on aperçoit un bout de son bras. Il n'y a pas de difficulté. Il y a d'autres passages qui vont poser des questions sur ce qui peut se dérouler au quartier disciplinaire. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'en termes de sécurité, qu'il y ait cette occultation de la caméra.
Ah oui, puis c'est la cellule suivante, c'est pareil, ça occulte toutes les autres portes quasi.
Voilà, sachant que les portes sur la gauche sont soit, il y a un ou deux locaux techniques, là sur le côté, il y a deux locaux techniques de mémoire. Sinon, ce sont les portes des cellules. Et sur la droite, vous avez le bureau des surveillants, vous avez le couloir d'accès qui est juste après, qu'on ne voit évidemment pas. Et vous avez ensuite, sur la droite, d'autres portes qui correspondent en fait à des portes de bureaux, de bibliothèques, de salles de sport.
Ce ne sont pas des cellules. Donc voilà, dès qu'une porte s'ouvre, on occulte l'entrée quasiment de toutes les autres cellules. Quoi.
Voilà.
Idir est décédé il y a maintenant 9 mois. Comment vous vous projetez dans cette affaire ? À quelle échéance on peut espérer qu'une lumière soit faite sur sa mort ?
Une instruction, c'est toujours du temps. Alors on peut le regretter, on préférerait des instructions qui avancent, évidemment à pas de géant, qui avancent extrêmement rapidement, sauf que tous les actes demandent du temps. Vous demandez une audition, l'audition va se faire dans un délai de 2 à 3 mois. Voilà. Malheureusement, l'urgence de savoir ce qui s'est passé, qui est une urgence vitale pour la famille, est une urgence qui est un peu différente pour la justice parce que c'est un dossier qui n'est pas contraint par la détention d'un mis en cause. Ce sont des vérifications qu'il faut faire. Une expertise technique, par exemple, c'est un délai de 3 à 4 mois qui est laissé à l'expert pour pouvoir faire son expertise et rendre un rapport qui est un rapport étayé. Et c'est vrai que ça implique toujours ce temps qui passe et qui s'écoule. Et toujours ces questions qui rongent la famille. Et toujours ces incertitudes, toujours ces souffrances qui reviennent. Et toujours, toujours cette question sur ce geste qui dire aurait eu ou que l'on a provoqué chez Idir ou les gestes qu'on a eus sur Idir lui-même.
سيتي حزني فالسن ذيك ما يسعظ الغضنا ولما نزيت والسن حبي الزوزني ذشنا زطور من سندو سيتي وثغرى ميلهما يغين ذي يندو يفرو هذي يندو يفرو صلف ليك بابينما صلف ليك بابينما السندو
Sendou par le chanteur kabyle Idir après ce reportage consacré à l'affaire Idir Médérès. Vous écoutez ici l'ombre, la radio de Concertina, et c'est la suite de cette émission consacrée aux violences exercées par des surveillants sur des détenus. Donc après le reportage consacré à Idir Médérès, je reçois la journaliste et documentariste Laurence Deleur. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Vous enquêtiez depuis plusieurs années sur les violences carcérales. Vous êtes notamment l'auteur de Maton violent, la loi du silence, le documentaire qui sera projeté ici même à l'étage en dessous, la halle de Diolfi, cet après-midi à 16h. Et après la projection, j'imagine que les gens vont pouvoir dialoguer avec vous.
Oui, avec moi et avec Cécile Marcel de l'OIP.
Laurence, quelle réflexion vous inspire le cas Idir Médérès, cette mort suspecte au mitard de la prison de Corba?
Malheureusement, ça ne m'étonne pas. J'ai déjà vu passer beaucoup de dossiers similaires. J'ai pu moi-même regarder les vidéos et c'est vrai que, comme le dit Maître Forêt, elle pose des questions. Il n'y a pas de certitude, il y a une enquête qui va se dérouler.
Notamment, c'est cette disposition de la caméra qui fait que quand on ouvre une porte, on occulte tout le reste du couloir.
C'est ça.
Donc il peut se passer n'importe quoi derrière.
Il y a plusieurs minutes où on ne voit plus rien et ce n'est pas la première fois qu'on voit des caméras qui occultent, enfin des portes qui occultent des caméras. Voilà, dans l'affaire de Jimoni Rosso, c'est un détenu qui est décédé là en janvier 2021 à Meaux. Des surveillants ont témoigné anonymement pour dire qu'il avait été frappé par des collègues. Dans cette affaire-là, il y avait une caméra piéton qui était portée par des surveillants. C'est un nouveau dispositif qu'expérimente l'AP depuis quelques temps. comme par hasard, cette caméra piéton, elle est cassée à ce moment-là. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la première fois que, même si on a des images, on ne peut pas les exploiter correctement. Sans parler des établissements où il y a des violences supposées et où il n'y a aucune caméra. Et puis, les caméras, de toute façon, dans un établissement pénitentiaire, elles ne filment pas tout. Elles ne filment pas l'intérieur de la cellule. Et les surveillants savent où elles sont placées. Donc, là, ce qui pose question aussi dans le QD de Corba, dans le quartier disciplinaire, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une caméra dans un sens du quartier disciplinaire et pas dans l'autre. Il y a notamment un chariot qui arrive tout d'un coup à l'image. On ne sait pas d'où il vient. La seconde d'avant, il n'était pas à l'image. La seconde d'après, il y est. Voilà,
Est-ce que les images ont été travaillées, entre guillemets, montées, expurgées de certaines séquences ?
Alors moi, lors de mon enquête pour mon premier documentaire, j'avais eu un surveillant en ligne que j'avais enregistré, qui n'avait pas voulu témoigner, qui ensuite avait coupé tous les ponts. Et il m'avait dit qu'il avait vu sa supérieure hiérarchique trafiquer la vidéo avant l'arrivée de la police, donc, pour dissimuler des violences.
On imagine que ça peut se faire. Ouais. Alors, dans beaucoup d'affaires de ce genre, la plainte de la famille est classée sans suite. S'il y a plainte, parce qu'il faut encore oser porter plainte et assumer une procédure longue. Là, dans l'affaire Idir Menderes, un magistrat instructeur a été nommé. L'enquête, véritable enquête, va débuter. Donc, on peut avoir de l'espoir, peut-être.
Oui, déjà le fait qu'il y ait une instruction, c'est déjà un grand pas. Après, toute la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à prouver des violences. En général, quand c'est prouvé, c'est parce qu'il y a un surveillant qui dénonce ses collègues.
C'est souvent Sinon, comme c'est ça. Parole contre parole, et il y a une parole qui a plus de poids que l'autre, c'est celle du surveillant.
C'est ça, exactement, parce qu'ils sont assermentés. Et, on le voit dans les tribunaux. Hein. Moi, je suis assez stupéfaite des comptes rendus des journalistes de certaines audiences où quand le détenu parfois dit « mais j'ai été frappé aussi, mais je me suis tellement défendu, c'est les surveillants qui ont commencé », le magistrat éclate de rire. Donc, il y a cette idée que forcément, il va mentir et que le surveillant va forcément dire la vérité. C'est quand même plus complexe que ça.
Ça fonctionne comment, ça, ce mécanisme ? On a transgressé la loi, on a été condamné à une peine, donc sa parole ne vaut plus rien ?
Oui, c'est ce que dit très bien Jean-Marie Delarue lorsqu'il était contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'est un détenu n'a pas de droit puisqu'il a transgressé la loi. C'est quand même un raisonnement un petit peu surprenant. Et moi, ce qui m'avait intéressé au début de mon travail, c'est que justement, je me suis intéressée aux plaintes que portaient les détenus, mais dans différentes situations. Les conditions de détention, ça, on en a beaucoup parlé. Un viol qui avait été commis, etc., etc. Des défauts de soins. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que le détenu, justement, fasse confiance à la justice pour obtenir gain de cause, alors qu'il s'estime privé de ses droits élémentaires. Donc je trouvais que c'était un mécanisme intéressant, plutôt que de justement se faire justice soi-même ou créer de la violence, il saisissait la justice. Mais bon, après, avec les résultats qu'on observe, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de plaintes qui aboutissent.
Alors on vient sur votre film qui s'intitule, si on développe tout son titre, « Maton violent, la loi du silence ». De quel silence parlez-vous ? Il n'y a pas de S à silence dans votre titre, mais il y a déjà ce silence d'une profession de la plupart des surveillants, sauf exception ?
C'est ça, c'est vraiment l'omerta. On parle de l'omerta dans l'armée, mais il y a aussi une omerta très forte au sein de l'administration pénitentiaire. Et en fait, le métier de surveillant, c'est un métier difficile, ça, personne ne le conteste. C'est un métier qui est mal payé, qui n'est pas reconnu, un métier auquel on accède souvent parce qu'on n'a pas réussi le concours de la gendarmerie, de la police et de la douane. Il faut quand même savoir qu'on recrute à 6 sur 20 aux écrits. Hein. Là, j'ai rencontré l'autre jour un ancien directeur qui faisait passer les oraux. Il ne fallait pas qu'il mette 3 sur 20 à l'oral parce que le candidat pouvait quand même être repêché. Enfin non, 5-6 sur 20, c'était un peu... Il risquait d'être pêché. Donc, il fallait vraiment mettre 2 ou 3 si on voulait que le candidat ne rentre pas. Donc, c'est pour vous dire un petit peu le niveau. Et puis, donc,
la formation qui suit est très courte. Hein, une des plus courtes d'Europe, c'est à peine une année.
C'est ça. Et comme c'est un métier difficile, on se serre les coudes. Il y a des agressions envers les surveillants, ça personne ne le nie non plus.
C'est le quotidien de la prison.
Voilà, il y a des détenus qui sont difficiles. Il y a le problème de la maladie mentale en prison, au lieu de les mettre dans des hôpitaux, les détenus qui ont des problèmes mentaux, ils sont en prison.
Et ce n'est pas marginal, on estime que 30% des détenus sont malades psychiatriques.
Tout à fait. Donc forcément, comme il y a un climat de tension, de violence, il y a des horaires de travail qui sont très compliqués aussi. Ils font les matins-nuits, ils viennent le matin, ils font une pause le midi, ils retravaillent le soir, ils font des heures sup, etc. Et donc, quand il y a violence, on se serre les coudes, on ne dit rien, on fait corps. On fait vraiment corps. Et d'autre part, si on dénonce les collègues, si on fait son travail, c'est-à-dire l'article 40 du Code pénal, on doit dénoncer un délit quand on y assiste, quand on est fonctionnaire, eh ben, on se retrouve mis au banc de la société, mis au banc de ses camarades.
En tout cas, de la profession.
De la profession, et c'est ce que raconte Éric Thineau dans le film.
Alors, sans dévoiler le documentaire, hein, venez à la halle à 16h pour le voir, mais quand même, votre film, il s'articule pas mal autour du témoignage de cet ancien surveillant,
oui, c'est ça.
Qui parle parce qu'il n'est plus dans la profession ou c'est qui ça. Est sorti de la profession parce qu'il a parlé.
En fait, il a fini par démissionner parce qu'il vivait un enfer et sa situation personnelle était très compliquée. Et au lieu de négocier un départ, il a démissionné parce qu'il n'en pouvait plus. Donc c'est pour ça qu'il a pu s'exprimer, effectivement. Et c'est pour ça qu'on a pu vendre le film. Il n'y aurait eu que des témoignages de détenus, le film ne serait pas jamais arrivé sur une chaîne nationale. Parce que, toujours pareil, on ne croit pas, les détenus assez. Donc là, comme il y avait un surveillant, c'était plus crédible pour le spectateur, on va dire. Comme ça qu'on nous l'a...
Je reviens sur cette notion de silence et d'omerta que vous développiez là. Les surveillants disent mais on doit se serrer les coudes, sinon on ne pourrait pas tenir. C'est-à-dire laissez-nous faire avec ce dont on dispose. Parfois la violence, oui ma foi c'est le prix à payer. Sinon prenez notre place. Voilà les clés, voilà la casquette. Débrouillez-vous.
Après, il y a deux types de violences. Il y a la violence qui est une réponse à une agression. Éric m'a raconté que sa femme, qui était surveillante, avait été elle-même agressée. Il est allé donner un coup de poing au détenu, il l'avoue. Il y a une violence en réponse à la violence, qui ne se justifie pas forcément, mais qui peut s'expliquer. Et il y a aussi la violence gratuite.
Le passage à tabac.
Voilà, le vrai passage à tabac. Et c'est celle-là que je trouve qui est la plus choquante et qui existe aussi. Voilà.
Alors, dans ce cas-là, quelles sont les situations que vous avez rencontrées dans vos différents reportages, notamment pour le film, par rapport aux directions des prisons dans lesquelles vous avez enquêté, les syndicats de surveillants et l'administration pénitentiaire, ce qu'on appelle les autorités pénitentiaires. Comment elles réagissent quand il y a passage à tabac ?
En tout cas, déjà, vis-à-vis du film, elles ont très mal réagi, elles n'ont pas voulu s'exprimer. Donc déjà, c'est un indice de la manière dont elles voient les choses, de la manière dont elles ont envie qu'on aborde ce sujet ou pas.
Il y a quand même une directrice dans votre film qui parle un peu. Hein.
Oui, mais j'avais demandé son interview qui m'a été refusée. Elle m'a parlé parce que je me suis introduite à Fleury avec le député Noël Mamère. Dans le cadre des visites des parlementaires, les journalistes ont le droit d'y accéder. Et il y avait quand même Noël Mamère qui lui posait des questions, donc elle s'est sentie un petit peu obligée de répondre.
Autour d'un cas de violence précis ?
Autour d'une dizaine de cas de violence répertoriés à Fleury, en tout cas une dizaine de plaintes. Je pense qu'il y en avait beaucoup plus de cas de violence, mais une dizaine de plaintes qui n'ont jamais abouti hein, d'ailleurs.
Et si les auditeurs d'Ici l'Ombre veulent savoir qu'est-ce qu'elle vous a répondu quand vous l'avez questionnée, eh ben, qu'ils viennent voir le film. Ah, on ne va pas tout dire quand même. Hein. Mais quand même, quelles sont les conséquences selon vous de cette omerta ? Je termine. Les syndicats de surveillants, quelle attitude ont-ils par rapport à ces cas de violence, en règle générale ?
En règle générale, ils les nient. Là, par exemple, le syndicat FO, j'ai pas mal parlé de la prison de Liancourt, hein, dont Éric Thineau était issu. Les personnes qui ont été mises en cause ont retravaillé après et ont été promues. Et il y a un tract qui est sorti au moment de la diffusion du documentaire qui défend le major hein, en question et qui nous traite de tous les noms et qui traite notre travail de tous les noms. Donc il y a très peu de reconnaissance de cette violence. Voilà, il la nie en général.
Alors cette omerta que vous venez de dessiner, quelles conséquences est là ? Parce que finalement, les surveillants de la pénitentiaire, ils doivent faire leur travail au nom de la loi. Quand ils le font au nom de la force, qu'est-ce que ça déclenche à long terme ?
Tout le problème, c'est qu'est-ce que
la réinsertion... Ça fait des plaies, des bosses et parfois des morts. Mais au-delà des souffrances physiques et morales, quelles sont les conséquences ?
Pour moi, la réinsertion n'a pas de sens dans ces conditions. Et puis, le détenu, il voit qu'il porte plainte parce qu'on bafoue ses droits, que ça n'aboutit pas, alors que lui-même a été condamné parce qu'il a commis un acte délictueux. Donc, dans ces conséquences, je ne vois pas comment un détenu peut sortir de prison en allant bien et en ayant envie d'avancer. Par exemple, moi, j'ai eu à traiter de... Il y a eu un reportage d'envoyé spécial, il y a quelques années, sur les conditions à Fleury-Mérogis. Il y a des détenus qui avaient filmé la tôle et qui avaient confié les images à envoyé spécial. J'ai été chargée de faire la suite de ce reportage, qui finalement n'a pas eu lieu. Mais toujours est-il que j'ai été en contact avec ces détenus, et parmi eux, il y avait Amédi Coulibaly. Voilà. Son parcours, on le connaît, donc il a commis cet attentat de l'hypercachère.
Hein,
il est devenu terroriste. Au moment où il dénonce ces conditions, il n'est pas dans cet état d'esprit-là. Et il fait un travail un petit peu journalistique à l'intérieur de la prison pour dénoncer des conditions qui sont révoltantes. Voilà, je pense qu'il faut s'interroger sur ce que fait la prison à des gens comme lui. Je ne dis pas que c'est la prison qui en a fait un terroriste uniquement, mais dire que ça n'a joué aucun rôle dans son parcours, ce serait une erreur aussi. Donc voilà, moi je pense qu'on ne peut pas parler de réinsertion dans ces conditions. Et Laurent Jacquat le dit dans le film, on en fait des fauves en fait, à les maltraiter comme ça institutionnellement et physiquement, on en fait des fauves. Donc ça concerne aussi la société et ça a un impact sur nous aussi. Il ne faut pas croire qu'on est à l'abri et que ça va concerner que ces gens et que leur famille. Hein. Forcément, il y a un retour de bâton derrière. Hein.
Laurence Deleure, ça fait une douzaine d'années que vous travaillez sur la détention et sur ces questions de violence carcérale. Vous avez dit un petit peu plus tôt dans la discussion, je me suis glissé derrière le député Noël Mamère pour questionner cette directrice de prison. En fait, les citoyens français sont peu, voire pas informés de ce qui se passe derrière les murs. Ça, c'est une situation unique en Europe ou originale? Comment se fait-il qu'on ne puisse pas savoir ce qui se passe et ce qui se fait en notre nom, citoyens français?
Alors, je n'ai pas tellement d'éléments de comparaison avec les pays européens. Ce que je peux dire, c'est que, bon, heureusement, il y a cette possibilité des parlementaires d'entrer en prison, et ça, c'est une très bonne chose. Après, le problème aussi, c'est qu'est-ce qu'on va y voir?
Mais que le journaliste ne puisse aller que derrière, j'allais dire, au...
Oui, alors, il y a des
dans
films...
Dans le sillage d'un élu, c'est quand même pauvre.
Il y a des films qui se font en prison, mais à quelles conditions aussi, hein? C'est-à-dire que les surveillants sont très polis, que tout est propre, que tout est bien rangé. Bon, moi, il y a plein de détenus qui m'ont raconté, ou même de surveillants, qu'on nettoyait de fond en comble la prison quand il y avait des visites. Mais de toute façon, il faut savoir ce qu'on va chercher aussi. Hein? Est-ce qu'on va aller au mitard? Est-ce qu'on va aller en commission de discipline? Est-ce qu'on va voir comment fonctionne la commission de discipline? S'il y a un respect du contradictoire ou pas? Est-ce qu'on va interroger le sanitaire pour voir comment ont été vus ou pas les détenus suite à des violences, à des problèmes de santé? Une visite, ça ne fait pas tout non plus.
Combien de temps on peut enquêter à l'intérieur, avec quel degré de liberté? Moi, j'ai travaillé longtemps à la radio suisse romande. J'ai pu faire de véritables reportages à la prison de Chandelon à Genève, à celle de Fribourg, avec de la latitude et de la liberté de travailler. Ce n'est pas le cas dans les prisons françaises.
Je ne dis pas qu'il ne se passe rien, mais après, si vous enquêtez sur les violences pénitentiaires, c'est sûr qu'on ne vous accueille pas. Ça, c'est une évidence. Moi, on m'a même interdit de filmer les extérieurs des établissements pénitentiaires
lors de ce documentaire. Ça va loin. Laurence, on vient sur votre film, c'est quand même ce que les gens attendent là, dans le cadre de Concertina. Alors, il fait quand même du bruit pour différentes raisons, chaque fois qu'il est diffusé ou rediffusé. Hein. Déjà en 2017 sur France 5, et puis là sur LCP au printemps. Quelle réaction provoque-t-il au sein du public et dans la presse, dans l'opinion?
Écoutez, la presse a pas mal salué le documentaire, j'étais contente. Voilà, il trouvait que c'était un sujet qu'on abordait peu. C'est vrai que dans la presse écrite, on aborde certains procès de surveillants, mais après, on ne suit pas derrière. Donc là, dans le cadre de la télévision, c'est vrai que c'était un peu une nouveauté d'aborder ce sujet. Après, il y a de tout dans les réactions. Je suis allée sur les réseaux sociaux des surveillants. Ils nous insultent, ils nous traitent de tous les noms. Mais par exemple, ils insultent aussi un député qui insiste pour rentrer en prison et à qui on refuse l'entrée de la prison. Vous voyez, il le traite de tous les noms. Alors, c'est son droit le plus strict. C'est même un devoir, je pense, de la part d'un parlementaire de faire ce genre de mission. Il traite aussi les ministres, comme Mme Belloubet, de pro-détenus. Donc, voilà, ça ne m'étonne pas plus que ça, leur réaction.
Après, mais les détenus, il leur en faut peu dans les prises de position un peu favorables aux détenus pour les conchier, quoi.
Ouais. Donc, des réactions. Après, il y a eu des réactions des familles, des détenus, des associations qui sont très positives. La réaction de la pénitentiaire, c'était plutôt de m'appeler pour me dire que je dérangeais les surveillants sur leur portable, des choses comme ça, quoi, des petites mesures un peu d'intimidation.
D'accord. Voilà. Et vous avez été assisté à des projections avec discussion derrière avec le public?
Quelques-unes.
Ça va se passer à la 16h?
Voilà. Après, c'est vrai que les gens ont du mal à croire que ça se passe comme ça en prison, qu'il y a des détenus qui se font frapper, voire qui meurent sous les coups des surveillants, parce que voilà, on se pose des questions sur certains morts dits suspects. Les gens n'y croient pas trop. Les gens croient plutôt que c'est le Club Med de la prison, et les vidéos que font eux-mêmes les détenus dans leur cellule, où ils se fument en train de fumer du shit, de regarder la télé ou de jouer aux jeux vidéo, ça fait du tort, je pense, à ce discours, parce que du coup, on a le sentiment qui vivent très bien là-bas. Et...
Je me tourne vers Zied et Léonore qui sont à la technique. Vous aviez une question qui vous venait et que je n'ai pas posée à Laurence. Vous n'hésitez pas. Aux auditeurs, je rappelle le numéro de téléphone de Ici l'Aube, 06 71 96 81 57. Si vous avez envie de poser une question à Laurence Deleur.
J'ai trouvé une question.
Zied. Au fond de ta tête, je savais bien qu'il y avait une question qui te taraudait.
D'où te vient cette passion ou cet intérêt pour ce sujet qui est quand même pas non plus c'est pas le club, enfin c'est pas funky quoi.
C'est vrai que c'est assez triste et que j'ai passé pas mal de nuits blanches quand je lis certains dossiers. Après, je pense que c'est quand on est journaliste, on se bat aussi contre l'injustice. Enfin, en tout cas, on a envie de dénoncer des situations qui nous semblent injustes. Et voilà, je me mets à la place de ces gens, même si moi, je n'ai pas fait de prison et que je suis dans un milieu privilégié, etc. Mais je pense que ça peut arriver à tout le monde. Hein. Je connais des gens de milieux très bourgeois qui y sont allés. Voilà, je me mets à leur place dans leur cellule tout seul à essayer de crier à l'aide et puis qu'on ne les entende pas. Et puis surtout, je trouve que c'est vraiment... Si on raisonne cyniquement, ce n'est pas dans notre intérêt qu'ils soient traités comme ça. Pour le futur, je parlais des attentats terroristes. Je pense aussi à des images. Ce n'est pas Guantanamo chez nous, mais parfois, il y a des actes qu'on peut assimiler à de la torture hein, quand même sur ces détenus. Guantanamo, ce qu'a fait les États-Unis à Guantanamo, ça va nous faire du tort à nous tous aussi. Hein, il ne faut pas se leurrer. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est du raisonnement de court terme, mais que l'administration pénitentiaire, elle devrait lutter contre ça parce que c'est dans notre intérêt à tous sur le long terme que ces gens soient réinsérés. Voilà. C'est tellement difficile déjà de se réinsérer. Il y a du chômage, on n'a pas d'argent, les familles sont disloquées. Donc imaginez si vous avez été traité de cette manière. Et puis, on parle de la violence physique, mais il y a toute la violence institutionnelle, les courriers qui n'arrivent pas, les parloirs qu'on vous refuse, les soins qu'on ne vous prodigue pas, etc., qui fait que vous ne vivez pas votre détention normalement.
Ça perpétue un peu ça perpétue l'engrenage, le cycle.
Et aussi l'idée que la France ne vous aime pas, parce que les radicalisés en prison, ils jouent là-dessus pour attirer des nouvelles proies, on va dire, fragiles, et ils jouent là-dessus. Regarde comme les surveillants te traitent, regarde comment la France te traite, nous on va t'aider,
comment tu fais? J'ai encore une question. Attends, tu me lances, là, ça y est, je peux pas arrêter.
La dernière, j'en ai encore quatre.
C'est que la deuxième.
On partage.
Bon, comment tu fais alors pour garder la tête froide, ou en tout cas pas sombrer dans une dépression, ou je sais pas, pour être pas aigri, ou voilà. Comment tu fais? Est-ce que tu as d'autres sujets un peu plus...
Et garder, sinon, une objectivité, en tout cas, une honnêteté dans le traitement de ton sujet.
De toute façon, voilà, je parle que de ce dont je suis sûre. Il y a des morts suspectes, je n'arrive pas à les prouver, j'en parle pas. Hein. Voilà, donc c'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'il y a plein de choses qu'on sait qu'on ne peut pas raconter.
Non, je te parlais personnellement, comment tu fais
pour... Personnellement, je me dis qu'on fait quand même un travail utile. Hein. Tous à nos postes différents, on fait un travail utile, et qu'il y a quand même des choses qui sortent, et que ça va quand même évoluer au bout du compte. C'est ce qu'il faut se dire.
Laurence, depuis la sortie de votre film il y a 4 ans, est-ce que les choses ne sont pas en train de changer? Vous avez suivi de manière très attentive un procès à Rouen devant la cour d'appel où étaient jugés 5 surveillants du centre de détention de Rueil-Malmaison.
De
Val-de-Reuil, pardon, j'en veux pour Rueil-Malmaison. Donc ils ont pris quand même des peines inhabituellement lourdes dans ce genre d'affaires. Donc est-ce que ça bouge ou bien?
J'ai l'impression que les peines sont un petit peu plus lourdes qu'avant. C'est lié, je pense, aussi à certains magistrats, une nouvelle génération de magistrats qui connaît peut-être plus la détention. Et puis, au fur et à mesure, il y a tellement d'affaires, les magistrats finissent par comprendre que, oui, il se passe quand même des choses en détention qu'on ne peut plus fermer les yeux.
Là, dans ce procès, par exemple, en quelques mots, si c'est possible de résumer, pourquoi ils ont été condamnés et qu'est-ce qui s'est passé de différent?
Ce qui fait qu'ils ont été condamnés, c'est qu'encore une fois, il y a un surveillant, un collègue qui les a dénoncés. Il n'y aurait pas eu ce surveillant, il n'y aurait pas eu de procès, les magistrats l'ont dit.
Un surveillant d'origine kosovare, intègre et courageux.
C'est ça,
quoi,
c'est ça.
Il s'est mouillé.
C'est ça. Ensuite, ce qu'a dit l'avocat général, c'est que le détenu aurait pu mourir. Il s'est vu mourir et c'est pour ça que l'avocat général me l'a dit après l'audience, il a requis aussi sévèrement, c'est qu'on ne parlait pas d'une petite claque. Après, il y avait tout dans ce procès, il y avait les faux CRI, les faux comptes rendus d'incidents qui sont rédigés en racontant n'importe quoi, et le titre de l'article c'était « Ok, je mets comme d'habitude qu'il s'est cogné », l'article que j'ai fait pour le média Le Poulpe et qui a été rediffusé dans Mediapart. Et cette phrase, je pense qu'on l'entend très souvent, en fait, c'est « Allez, on s'arrange, qu'est-ce qu'on écrit ?» Enfin, les surveillants le racontent très bien. Et d'ailleurs, on voit parfois dans les comptes rendus d'incidents, on voit les mêmes phrases, les mêmes mots utilisés, les mêmes scènes décrites, un peu bizarrement. Donc il y avait vraiment tout dans ce process, c'est-à-dire qu'on a essayé d'empêcher Besnik de s'exprimer. Et puis ce qui, moi, m'a perturbée aussi, et malheureusement, ces personnes-là n'ont pas été... Enfin, malheureusement. En tout cas, la justice a décidé de ne pas les poursuivre, mais il y avait des hauts gradés qui étaient présents, qui ont tout vu. Le détenu l'a redit à l'audience. Il a demandé aux gradés, il a dit « Major, major, aidez-moi, dites-leur d'arrêter », et le major n'a rien fait. Il a pas été entendu sur ces faits. Et l'autre gradé qui a assisté aux violences, elle a été entendue par téléphone, et il y a eu 3 questions, ça a duré 5 minutes.
Donc ces 2 personnes n'ont pas été jugées?
Elles n'ont même pas été poursuivies. Pour moi, elles sont responsables, et même à un niveau supérieur que ceux qui frappent.
Même si elles n'ont pas frappé elles-mêmes.
Parce que si elles les interrompaient tout de suite, il n'y aurait pas de violence, ça s'arrêterait tout de suite. Alors que là, il a été entraîné au QD, il était nu, on lui a mis la tête sous le lit, il n'a pas vu le médecin. On l'a empêché de voir le médecin en le transférant dans un autre quartier, parce qu'il y avait 2 quartiers disciplinaires, pour l'empêcher de voir le médecin. Donc tout a été fait pour que ça ne se sache pas, en fait.
Merci Laurence Delors, on pourrait parler longtemps, hein, mais on va essayer quand même de tenir l'horaire. En plus, on peut s'écouter une petite chanson avant le terme de cette émission. Je rappelle, avant votre film, Laurence, Maton violent, la loi du silence, c'est un documentaire d'environ une heure. Hein,
52 minutes.
52 minutes, voilà, projeté à partir de 16h à la halle de Dieulfi et suivi d'un débat avec vous. C'est vraiment sympa d'être venu. En plus, vous êtes arrivé un peu sur les chapeaux de roue de Montélimar, descendu du TGV, une voiture. Super. Alors, à cet après-midi.
Merci à vous. Oui,
merci.
À cet après-midi.
Merci.
Laissez passer. Ah oui, vous pouvez passer.